Bonjour à tous. Il y a tout juste 5 mois, l'équipe tournait une vidéo de présentation de leur marque qui était un simple projet à l'époque. Une vidéo de 2 minutes qui expliquait la démarche, le produit et leurs valeurs sur une plateforme de crowdfunding. C'était un vrai défi pour l'équipe et aujourd'hui la vidéo a été vue plus de 1,5 million de fois. Alors de quoi je parle? Je parle de la marque Oumai. C'est le shampoing solide qui veut sauver la planète. Un produit respectueux de l'environnement, naturel et transparent sur sa composition. Mais il est aussi recyclable, vegan et fabriqué en France. Oumai, c'est avant tout une aventure humaine créée par des entrepreneurs dynamiques. Le projet est lancé en 2018. C'est Célia qui va nous parler de l'origine du projet lors de ce podcast beauté. Alors en place avec Célia Favre, la cofondatrice de la marque Oumai.
Bonjour Célia et bienvenue dans ce podcast beauté.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Merci de me recevoir chez toi. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux te dire d'où tu viens et qui tu es Célia?
Alors du coup, moi j'ai 24 ans, bientôt 25, ce mois-ci. Et moi je suis à la base originaire d'Annecy. Dans les Alpes, j'ai grandi quasiment toute mon enfance là-bas et après je suis partie faire mes études de commerce à Toulouse. J'ai pas mal voyagé et après au bout de quelques stages etc, je suis revenue poser mes valises à Paris et voilà, du coup maintenant j'habite à Paris depuis un an.
Et juste avant qu'on parle de ta marque, qu'est-ce que tu faisais avant?
Alors, j'ai fait une partie de mes stages dans l'industrie de la cosmétique.
Donc ça t'intéressait?
J'ai vraiment mis un premier pas, enfin mon tout premier stage, c'était dans une marque de cosmétiques naturelle toulousaine justement.
D'accord.
Donc c'est là que j'ai commencé à mettre vraiment le premier pas dans la beauté. Mais mon dernier stage qui m'a justement un peu donné le déclic de l'entrepreneuriat, c'était un stage dans la food tech. Donc vraiment rien à voir. J'avais fait principalement de la beauté avant et du coup je m'étais dit on va quand même aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs parce que on sait pas si peut-être que ça pourrait autant m'intéresser quoi. Et du coup je faisais principalement de l'achat de publicité en ligne. Sponsorisation sur Facebook, Instagram, Google, etc. Et ça m'a pas trop plu. Donc je me suis vraiment rendu compte que le monde de la beauté, de la cosmétique naturelle, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je pense que le fait que ça me plaisait pas du tout, ça m'a poussé à me dire lance-toi.
À continuer, te lancer. Comment est né Oumai? Oumai,
Oumai, ouais.
Oumai, je l'ai dit bien.
Oui, c'est bien.
J'étais pas sûre.
En fait, moi, il y a un an, tout pile, j'étais en plein dans ce stage de fin d'études. Et comme tout bon stage de fin d'études, on se pose quand même pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Et sachant que ça me plaisait pas du tout ce que j'étais en train de faire, j'étais en énorme remise en question. Je me disais, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux reprendre tes études? Je voulais faire de l'éco-conception, je voulais faire des études, un master spé en ingénierie. Enfin, vraiment des choses qui n'avaient rien à voir. Ou alors, je voulais ouvrir mon concept store vegan, zéro déchet, au fin fond de la France, pour rendre un peu la consommation responsable plus accessible. Et j'avais un peu des idées dans tous les sens. Mais en tout cas, je savais que... Enfin, je voulais pas chercher un CDI classique, entre guillemets, parce que il y avait aucune entreprise qui recrutait, tout du moins, qui allait aussi loin que ce que j'aurais aimé en termes de valeurs et d'engagement environnemental, social.
C'est dingue, à ton âge, de savoir déjà ce que tu veux dans une société, en fait. Je trouve ça fou. À ton âge, je pense que je faisais pas attention à ça et je trouve ça génial qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui font très attention à ça dans les sociétés.
Je pense que c'est la façon aussi dont l'époque dans laquelle on a grandi, ça fait plusieurs années quand même qu'on entend parler de ce genre de problématiques. Moi, en fait, le déclic professionnel est venu aussi de mon déclic personnel. C'est-à-dire que, j'ai commencé à devenir de plus en plus écolo, entre guillemets, et d'avoir une consommation plus responsable dans ma vie perso. Et au fur et à mesure, en fait, quand on va chercher l'information, etc., on a de plus en plus de déclics. Et quand on en arrive à un certain stade dans sa vie personnelle, on se dit, en fait, je peux pas continuer à essayer de faire tous les efforts du monde tous les jours, le soir après le travail et les week-ends, et le reste du temps, travailler pour une entreprise qui défend pas du tout ce à quoi je crois le reste du temps. Donc,
c'est clair, c'est clair.
Donc je me suis dit, bah, en fait, c'est pas possible, je peux pas accepter un CDI classique, conventionnel. Enfin, pour moi, ça a pas de sens. Et ça, c'était quelque chose que je me disais déjà depuis super longtemps, parce que tous mes stages et toutes mes expériences pro d'avant avaient quand même toujours un lien avec l'environnement et bah, même cette entreprise de food tech dans laquelle je travaillais juste avant. Ben, le but, c'était de promouvoir quand même les commerçants de quartier, l'alimentation de proximité, le goût des bons produits, etc. Donc, enfin, il y avait toujours cette empreinte plus responsable, quoi.
T'es végane ?
Non, je suis pas végane, je suis végétarienne.
Végétarienne. On est deux. Ouais. Donc, redis-moi comment est née l'idée du projet Oumaï.
Et du coup, en fait, donc j'étais dans cette phase de vraiment remise en question. Et à ce moment-là, en fait, des fois, je me dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est complètement dingue. C'est vraiment une histoire de planète qui s'aligne. Et en fait, j'allais pour le seul entretien que j'ai passé pour un CDI. Et là, au même moment, sur LinkedIn, je reçois un message d'Emeric, mon actuel associé, qui m'envoie un message pour me dire « Oui, bonjour Célia, j'ai vu votre profil, je le trouve hyper intéressant, je suis en train de réfléchir à un concept de produit cosmétique naturel, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Au vu de votre profil, je pense que ça pourrait être quelque chose qui vous plairait. » Donc moi, ni une ni deux, je dis oui, carrément, on peut aller boire un café. Et en fait, parce que sur LinkedIn, j'avais pas mis que je recherchais, tu vois, un CDI, le truc en bonne et due forme, genre recherche un CDI en conseil ou quoi. J'avais mis que je recherchais un projet à valeur environnementale, enfin je sais plus ce que j'avais écrit, mais bon.
Mais il est tombé dessus.
Voilà, un truc un peu plus flex.
Ouais, ouais.
et du coup, il m'écrit ça, je vais boire un café avec lui et il commence à me dire, bah écoute, parce que du coup, mon associé Emeric a lui 55 ans.
Donc, oui, j'ai vu, voilà. Oui, c'est le plus âgé de la bande.
Complètement. Hein. Et ça qui est hyper intéressant et hyper chouette aussi. Et en fait, du coup, il me dit, bah écoute, moi je suis un peu un tournant dans ma vie là. J'ai longtemps travaillé plutôt dans le côté finance, ça fait quelques années que je fais de la recherche en développement durable et que je me rends compte qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire, c'est pas possible, on peut pas rester les bras croisés. Et en fait, ça m'a vraiment touchée, ce côté engagement, alors qu'il y a pas mal de personnes d'un certain âge, entre guillemets, qui se sentent pas du tout concernées, qui laissent ça un peu aux jeunes générations. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il ait le même engagement que moi, et tout de suite, on a bien accroché. Et il me dit, je suis déjà en contact avec Sarah, du coup, qui est une ingénieure en formulation cosmétique, une ingénieure chimiste, qui, elle, est partante pour développer les produits, etc. Donc je lui dis, génial, on prend un café, deux cafés, trois cafés, je rencontre Sarah. Et puis là, du coup, c'était pile il y a un an. On commence à se dire, si on devait monter quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait, comment on l'appellerait, vers quoi on a envie d'aller, quoi. Donc ça, ça a duré à peu près 2 mois, donc novembre-décembre de l'année dernière. En janvier, moi j'avais une très bonne amie de lycée, donc Angéline, la quatrième de
Angéline,
la bande,
oui.
qui finissait un CDD dans une entreprise de sous-traitance en cosmétique, qui elle aussi est ingénieure en fait en formulation cosmétique.
D'accord.
Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant qu'on forme un peu deux duos. Le duo vraiment recherche qui allait être au laboratoire. Parce que du coup, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir la recherche internalisée, de pas seulement nous chercher un laboratoire et des pharmaciens pour développer notre produit, c'était vraiment de le faire vraiment nous-mêmes. Je pense que j'expliquerai un petit peu plus, mais du coup, pour les valeurs qu'on souhaitait défendre, on avait vraiment besoin que le labo soit à nous. Du coup, il y avait vraiment l'idée d'avoir le binôme recherche qui, lui, donc, est à Montargis, dans notre laboratoire, et le binôme plus commercial, entre guillemets, donc formé de Emeric et moi. Et du coup, c'est un peu comme ça que l'aventure est née. En fait, moi, j'ai fini mon stage de fin d'études fin décembre. Et 2 janvier, j'étais en train de travailler sur Oumaï. En fait, ça, c'était vraiment une évidence. Enfin,
ouais,
je me suis dit, au pire, j'essaye. Et puis, si ça marche pas,
ça marche pas.
Et puis voilà, quoi. Et en fait, j'avais tellement pas envie de signer un CDI tout bien rangé que ça m'a paru la meilleure idée possible.
Et pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire Oumaï et quelles sont les valeurs de cette marque ?
Alors, Oumaï, du coup, en fait, c'est les initiales d'une marque à impact. Et en fait, le but, vraiment, c'était de se dire, on va créer une marque, on va créer des produits, on aura forcément un impact. On peut pas, enfin ça sert à rien d'essayer de chercher à avoir l'impact le plus neutre, le plus nul. Nous on se dit bah en fait on veut pas tendre vers ça, on veut vraiment avoir de l'impact, et du coup c'est pour ça qu'on est vraiment une marque hyper engagée. On revendique des choses assez haut et fort, notamment bah, sur les ingrédients. On parle beaucoup en fait aujourd'hui de produits made in France. On s'intéresse énormément à ça dans la cosmétique et pas que, dans le textile, dans le mobilier, enfin dans plein de domaines. Et sauf que dans la cosmétique, le problème c'est que avoir un cosmétique made in France, ça veut dire qu'il a été fabriqué en France. Mais pour fabriquer un cosmétique, on n'est pas sans savoir qu'il y a besoin de 30, 40 ingrédients différents la plupart du temps, parce que les listes d'ingrédients sont souvent très très longues. Et du coup, on a très très peu de traçabilité aujourd'hui là-dessus. En fait, on se rend compte que bah, on se pose pas la question en fait de l'huile d'argan, d'où est-ce qu'elle vient, l'aloe vera, d'où est-ce qu'il vient, enfin on n'en sait rien. On sait juste que le produit fini, il est made in France, ouais. Mais on se pose pas vraiment la question de savoir combien de kilomètres ont fait tous les ingrédients avant d'arriver dans ce laboratoire français qui a fabriqué, quoi.
Mais alors justement, dis-moi quel est votre premier produit, parce qu'on ne l'a pas dit.
Alors oui, notre premier produit, c'est un shampoing solide.
Voilà, solide.
Voilà, qui est complètement zéro déchet.
Voilà, et pourquoi un shampoing? Vous étiez tous d'accord pour commencer par faire un shampoing, ou ça a été réfléchi
alors,
longtemps?
Le shampoing, en fait, c'était un peu comme une évidence, enfin, dans le sens où nous, notre but premier, bah, du coup, c'était d'avoir le plus d'impact possible. Donc ça se ressent dans notre nom de marque. Mmh. Et pour avoir le plus d'impact possible, en fait, on s'est dit bah, où est-ce qu'on peut prendre le problème à la source. Un des produits qu'on utilise le plus de nos 3 à nos 90 ans, c'est le shampoing notamment. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que tous ces shampoings, ils sont tous dans des bouteilles en plastique la plupart du temps. Et le shampoing solide, ça existe, mais ça convainc encore très très peu de monde. Mmh. Et on s'est dit, en fait, c'est pas possible, c'est une invention entre guillemets géniale, parce que du coup, ça permet de se passer complètement de bouteilles en plastique, mais aujourd'hui, personne n'utilise. Donc, il faut vraiment faire quelque chose pour que, bah, en fait, ce soit tous ces flacons en plastique qu'on utilise en moins, quoi.
Parce que du coup, en parlant de flacons en plastique, j'ai lu, tu disais dans un article récemment, 174 millions de shampoings sont vendus chaque année en France. Mmh. Et c'est presque autant de flacons plastiques qui finissent dans nos poubelles. C'est assez dingue comme chiffre. Ouais.
Bah, en fait, ce qui est encore plus dingue et qui est plus problématique, c'est que même si certains de ces flacons sont recyclables, il y en a une très faible part qui est réellement recyclée. Parce que du coup, nous, on travaille vraiment sur ces questions-là. Et on travaille notamment du coup, avec une entreprise qui s'appelle Le Pavé. Et avec qui on développe en fait des portes-shampoings qui sont faits à partir justement d'anciens flacons de shampoing, gel douche, etc. Donc de plastique recyclé. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'eux, ils nous apportent énormément de connaissances sur le recyclage du plastique. Et ils nous disaient justement que bah, sur tout ce qu'on met dans notre poubelle jaune, in fine, il y en a donc 20% qui est réellement trié. Et sur ces 20%, il n'y en a que 7-8% qui sont réellement recyclés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une deuxième vie en tant que flacon plastique. Le reste, donc le delta entre les 20 et les 8% est incinéré pour faire de l'énergie thermique. Et le reste, donc les 80 autres pourcents, sont soit enfouis, soit envoyés dans les pays étrangers. Et en fait, donc, la vraie problématique, c'est au-delà de se dire que ça finit dans notre poubelle, c'est que ce n'est absolument pas recyclé ou revalorisé, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques comme ce qu'on voit dans les émissions à la télé.
Et quand tu dis ils sont recyclés ou ils partent dans les pays étrangers, ils en font quoi ?
Dans les pays étrangers ?
Ouais, les flacons.
Ah bah, on voit souvent des émissions en ce moment, ça finit dans des décharges à ciel ouvert, qui finissent après dans les terres, dans les océans, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un continent de plastique.
Ça fait réfléchir.
Ouais.
Alors, on s'est un petit peu égaré, mais pour en revenir aux valeurs de ta marque, autre que les ingrédients, tu avais quoi alors ?
Alors nous aussi, il y avait quelque chose qui était ultra important, c'était vraiment de se dire d'avoir une démarche la plus complète possible. Et c'est pour ça qu'en fait, on a choisi d'utiliser un papier pour notre emballage de shampoing, qui est un papier recyclé, mais en plus de ça, en fait, il est ensemencé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des petites graines, et c'est des graines de basilic. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir planter l'emballage de son shampoing. Une fois qu'on a fini de l'utiliser, qu'on n'en a plus besoin, on le met juste dans la terre. Et en fait, on va venir l'arroser et ça va faire pousser du basilic. Et en fait, on s'est dit, mais c'est génial, ça permet de transformer ce qu'on aurait pu considérer comme un déchet en quelque chose de positif.
De végétal.
Ouais.
Ça, c'est génial comme idée. Pour
donc, voilà, on essaye aussi d'avoir, enfin, dans tous nos emballages, d'essayer d'avoir une démarche la plus responsable possible.
Tu ne m'as pas parlé des ingrédients qui sont dans ton produit, votre shampoing. Où est-ce qu'ils viennent de France ?
Alors du coup, nous, dans notre shampoing, on a 12 ingrédients différents. Donc déjà, on voulait une formule hyper minimaliste. C'était compliqué de faire moins que 12. Là, clairement, les 12, ils ont vraiment leur place et ils ont vraiment chacun une fonction. Et c'était ça qui était vraiment important pour nous. Donc on va avoir... Tous les ingrédients ne sont pas français. On a fait au maximum de ce qu'on pouvait. C'est ce vers quoi on tend. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quasiment impossible. Parce que, en fait, ce qui était le plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, quand on a commencé à sourcer nos ingrédients, on a commencé à dire, bah, du coup, on veut des ingrédients français, on veut des ingrédients à minima européens. Mmh. Et en fait, quand on a appelé de plus en plus de fournisseurs, de fabricants, ils nous ont dit, mais en fait, pourquoi ? Ils comprenaient pas. Et nous, ça nous a sauté aux yeux. On s'est dit, OK, donc là, il y a vraiment un problème. Il faut vraiment qu'on appuie là-dessus parce que c'est pas possible. Et en fait, on leur a expliqué que c'était pour réduire l'empreinte carbone, que si l'ingrédient, il venait de France, forcément, il avait fait moins de transport que s'il venait d'Asie ou d'Amérique du Sud. Donc voilà. Donc, par exemple, dans nos ingrédients français et européens proches, donc on en source aussi en Italie et en Espagne.
Oui, ça reste en Europe.
Oui, c'est vraiment les pays limitrophes. Et du coup, on va avoir par exemple du beurre de prune de Gascogne pour le côté nourrissant pour le shampoing, donc pour venir vraiment nourrir la fibre capillaire. Pareil avec l'huile d'amande douce. On va avoir aussi de la glycérine végétale pour le côté cette fois-ci hydratation. On va avoir des protéines végétales qui jouent le rôle en fait vraiment de kératine pour venir combler en fait les trous qui sont présents dans la fibre capillaire quand elle s'abîme et venir vraiment gainer le cheveu sans silicone et sans produits plastiques et chimiques. Ouais. On va avoir de l'amidon de maïs pour vraiment en fait venir nettoyer le cuir chevelu, de l'extrait de romarin pour la conservation, de l'acide stéarique à base d'olive pour venir durcir le shampoing pour qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà, on a un maximum d'efficacité avec un minimum d'ingrédients.
Alors, question toute bête, mais comment ça s'applique un shampoing solide ?
C'est pas du tout une question bête, en vrai, franchement, c'est une très bonne question.
Vu qu'on a l'habitude, effectivement, depuis des années, du shampoing liquide.
C'est une excellente question, en fait. Donc, nous, on a vraiment travaillé sur la forme du shampoing pour que, justement, ce soit hyper pratique et hyper simple à utiliser. Nous, notre but premier, c'était vraiment de faire aucune concession. On s'est dit, on fait un produit 100% écologique, très engagé, très bon pour l'environnement, très bon pour la santé, mais il faut que le plaisir y soit là. Oui. Sinon, ça sert à rien.
Oui, on ne rachètera pas. Ouais.
Oui, oui, et puis ça sert à rien de faire un produit qui est hyper bon si personne ne prend plaisir à l'utiliser, quoi.
C'est vrai.
C'est pas comme ça qu'on a de l'impact. Donc voilà, et nous on a vraiment fait une forme où en fait il y a comme des sortes de vaguelettes autour du shampoing qui permet de vraiment venir positionner ses doigts pour avoir une bonne prise en main, comme ça le shampoing ne glisse pas des doigts sous la douche. Et en fait on va venir appliquer la phase plate du shampoing sur la tête, on va venir frotter, on va faire quelques mouvements le temps que ça mousse. Et en fait, ça mousse super rapidement parce que justement, le shampoing est assez gros. Il fait 100 grammes par rapport à d'autres shampoings solides qui peuvent exister sur le marché. Et en fait, le fait que cette partie qui est en contact avec le cheveu soit assez grande, ça permet de mousser très rapidement.
Donc un shampoing solide mousse.
Oui.
Avec le contact avec l'eau.
Exactement,
aussi.
Exactement. Ouais. Okay, il faut avoir les cheveux bien mouillés. En fait, on mouille bien ses cheveux. Et après, on prend son shampoing, on fait les 3-4 petits tours sur la tête. Et en fait, on n'a pas du tout besoin de garder son shampoing dans la main tout le long de son shampoing. En fait, dès qu'il y a assez de mousse, on le repose. Et là, on fait son shampoing ou on masse son cuir chevelu normalement.
Top. Donc, ce premier shampoing que vous avez fait convient à tout type de cheveux ?
Oui, ça, c'était quelque chose qui était aussi super important pour nous. Il convient à tout type de cheveux parce qu'en fait, notre agent lavant, il est extrêmement doux. Et du coup, ça permet, en fait, pour les cheveux qui sont généralement secs, ça permet de ne pas venir les assécher davantage. Ce qui se passe souvent, justement, avec les sulfates et tous les agents lavants assez irritants. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais dans les tests cosmétiques, l'agent d'irritation, en fait, c'est vraiment le sulfate. Donc, c'est ce qui existe de plus irritant. Donc forcément, quand on utilise un shampoing à base de sulfate, on va vraiment venir décaper le cuir chevelu et décaper la fibre capillaire. Donc ça, quand on a les cheveux déjà secs de base, c'est vraiment pas conseillé. Et en fait, pareil pour les cheveux qui sont à tendance grasse, entre guillemets, dans le sens où, en fait, quand un cheveu est gras, c'est parce qu'il est surstimulé et du coup, plus il va être agressé, plus il va produire du sébum pour se défendre. Et du coup, nous, notre shampoing, en fait, il est vraiment complètement doux pour que la fibre capillaire, en fait, elle reprenne un peu ses droits et qu'elle elle soit vraiment à l'état brut, naturel, et qu'elle s'autorégule, en fait. Enfin, c'est comme notre peau, elles ont complètement la capacité de s'autoréguler, et c'est pour ça que ça convient à tout le monde. Après, quand on a les cheveux extrêmement crépus, forcément, on a toujours des besoins un petit peu spécifiques, et je pense que toutes les personnes qui ont les cheveux crépus le savent, et de toute façon, elles n'utiliseront, elles, jamais juste un shampoing. Elles utilisent d'autres soins à côté. Ouais, donc voilà.
À quel moment justement vous avez voulu mettre ce projet sur une plateforme de crowdfunding? D'ailleurs, explique-nous un petit peu ce que c'est en deux, trois mots pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, pourquoi, à quel moment et qu'est-ce que ça vous a donné au final?
C'est vrai que le crowdfunding, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, c'est des plateformes qui permettent, en fait, de financer des projets, dans le sens où ça va permettre, en fait, de précommander le produit. Quand on a un projet et qu'on veut se lancer, on fait une page sur ces plateformes-là, on explique un peu toute la démarche et on propose aux gens de soutenir le projet en le précommandant en avance, en fait, en avant-première. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça permet aux entreprises comme nous, déjà de tâter la demande. C'est-à-dire, parce que nous, en fait, on n'en avait aucune idée de savoir si les gens allaient vouloir en acheter ou pas, s'ils allaient en vouloir 100, 1000, 10 000. Donc, ça permet d'ajuster la production en fonction aussi et de ne pas produire plus que nécessaire. Et ça permet aussi, surtout, de parler du projet et d'avancer les fonds. Parce que du coup, ça nous permet, nous, d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir passer toutes les commandes de matières premières, d'emballage, etc. avant de vraiment livrer les produits. Et le dernier point qui est vraiment super chouette, c'est qu'en effet, quand on présente une campagne de crowdfunding, on fait souvent une vidéo de présentation pour justement parler un petit peu plus en détail du projet, de la genèse, de ce qui nous motive à le faire. Et en fait, cette vidéo-là, nous, en tout cas, on a eu beaucoup de chance parce qu'elle a été énormément relayée.
Ouais. 1,5 million de vues,
oui.
C'est ça.
Un petit peu plus même maintenant, donc maintenant, c'est assez fou.
Ouais, c'est fou.
Et du coup, ça permet en fait de se lancer en ayant déjà des clients, en ayant déjà une communauté qui nous soutient, un premier cercle en fait
de futurs fans.
Ouais. De personnes qui nous soutiennent, quoi. C'est ça, c'est génial.
Mais alors justement, moi je l'ai vu, j'en ai acheté un d'ailleurs, je fais partie
Merci.
Du lot, mais votre shampoing était en pré-vente donc sur la plateforme Ulule, hein,
oui.
Je sais pas si on l'a dit quel était le nom de la plateforme. En fait, vous aviez un objectif, parce qu'il faut mettre des objectifs
oui.
de 100,
ouais.
Vous pensiez que vous en vendriez 100, et en fait vous avez eu 10 000 pré-ventes, c'est ça?
Ouais, en tout et pour tout.
En quelques mois?
Ouais, c'est en fait l'objectif de 100, c'est parce que c'est toujours bien de mettre un objectif assez bas, parce qu'en fait si on n'atteint pas l'objectif, on récupère pas du tout l'argent.
D'accord.
Donc le but, c'est de mettre un objectif qui est facilement atteignable. Et puis en fait, tout bêtement, on parle souvent plus d'une campagne qui est déjà financée que d'une campagne qui est en cours de financement. Ça donne plus confiance. Et notre objectif réel, nous, en vrai, c'était plus, on se disait, si on en vend 1000, 2000, on sera super contents, quoi. Et 10 000, on ne pensait pas du tout. On en a vendu en un mois 8 500 à peu près. Et après, en fait, quand Ulule a été terminé, on a quand même ouvert une autre plateforme de précommande qui s'appelle Okpal, du coup, qui est un peu la suite d'Ulule, qui permet, en attendant de faire son site internet, vraiment d'avoir encore la possibilité de vendre ses produits. Et là, on a revendu presque 3 000. Donc,
wow. Et est-ce que tu as pu voir quel était le type d'acheteur ou pas du tout? Enfin, d'acheteur des préventes. C'est des jeunes, est-ce que vous voyez tout ça ou pas?
Alors, on n'a pas de statistiques à proprement parler. Après, on a énormément échangé avec toutes les personnes qui ont commandé le produit, parce que du coup, ils avaient tous plein de questions, ils nous ont fait beaucoup de retours. Donc, on peut arriver quand même à avoir une idée des personnes qui ont acheté le produit. En termes d'âge, je pense que c'est vraiment 25-45 à peu près. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a vraiment les personnes qui ont déjà testé plein de shampoings solides et qui remettent un peu leur dernier espoir dans notre shampoing à nous, en nous disant « j'ai tout testé, il n'y a rien qui m'a plu, donc j'ai vraiment hyper confiance dans votre produit et j'espère qu'il va être top ». Et les personnes qui n'ont jamais utilisé de shampoing solide, qui n'étaient pas forcément très écolo à la base, et se disent « Ok, bon bah, vous me donnez confiance, j'ai envie de sauter le pas avec vous, parce que justement, votre shampoing, il n'est pas que pour les écolos durs, convertis, et qui sont prêts à faire des concessions. » Donc il y a vraiment un peu ces deux types de personnes.
Alors Célia, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer à un mode de vie plus green ? J'ai envie de comprendre.
Alors, moi, il y a vraiment un moment de ma vie, entre guillemets, qui m'a un peu fait basculer. Enfin, de manière générale, j'ai quand même grandi en campagne, etc. Donc, j'avais toujours quand même cette sensibilité pour la nature. Enfin, j'adore passer mes week-ends à faire des randonnées, etc. Mais il y a vraiment, en fait, c'est vraiment pendant mon premier stage, qui était du coup dans une entreprise de cosmétiques naturels à Toulouse. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris à ce qu'il y avait vraiment dans les produits cosmétiques. J'ai compris qu'il existait vraiment deux cosmétiques, la cosmétique entre guillemets de synthèse et la cosmétique naturelle. Et en fait, c'est dingue parce que j'ai l'impression qu'il y a un mur qui s'est effondré devant moi et que j'ai l'impression d'avoir découvert complètement autre chose. Enfin, jusqu'à présent, mon esprit de consommatrice était complètement embué. Quand il y avait écrit volume sur le shampoing, mais j'avais l'impression que forcément c'était vrai, forcément il y allait avoir un volume de dingue, enfin, j'étais entre guillemets un peu crédule je pense de tout ça.
Et tu regardais jamais ce qu'il y avait comme ingrédient
Moi je faisais complètement confiance, hein. Franchement c'était, je remettais jamais en cause, je pense que c'était un peu la naïveté de l'âge, enfin, à l'époque j'avais 20 ans hein, je crois, donc c'est vraiment parti de là. C'est mes collègues du coup qui m'ont expliqué comment lire les étiquettes, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment nocives et que c'était pas du tout dit sur les produits, donc ça m'a, enfin c'était vraiment le début, ça a plus été vraiment la clean beauty entre guillemets, dans le sens où j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient vraiment néfastes pour la santé humaine et d'autres qui étaient clairement meilleures et plus efficaces. Donc ça a vraiment été un peu le premier step, et du coup j'ai vraiment un peu changé mes habitudes dans la cosmétique, dans la beauté de manière générale à partir de ce moment là et en fait je trouve que c'est vraiment un peu un cercle vertueux, j'ai envie de dire, du coup, parce que voilà. Mais en fait, du coup, quand on commence à s'intéresser aux problématiques qui touchent à la cosmétique, après, la deuxième étape, moi, ça a été sur l'alimentation. J'ai commencé à me poser la question de me dire, en fait, si dans les cosmétiques c'est comme ça, sûrement que dans l'alimentation c'est la même chose. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à lire les étiquettes dans tous les sens, on commence à regarder des documentaires, à lire des choses. Et en fait, plus on lit, plus on apprend d'informations, plus on se dit, ah oui, mais en fait, je peux pas continuer à cautionner ça. Et du coup, petit à petit, j'ai changé mon régime alimentaire. Après, c'est passé sur les vêtements. Maintenant, j'achète plus aucun vêtement issu de la fast fashion. Même au-delà de cure, c'est plus vraiment plus aucune fast fashion. Enfin, vraiment, c'est, et j'achète
différemment. Fast fashion, c'est tout ce qui est H&M, Zara, toutes les marques comme ça qui
font des... J'achète soit seconde main, soit des marques éthiques responsables en recyclé ou en made in France.
Et ça, juste pour les auditrices, tu peux les acheter sur quel site
Ah bah, il y a plein de marques qui se lancent, c'est ça qui est super chouette. Il y a vraiment plein de choses. Dans les marques que j'aime beaucoup, il y a les vêtements Opal, H-O-P-2-A-L. Eux, ils font des vêtements en France et au Portugal 100% recyclés. Ils ont un très bel engagement écologique. Et après, il y en a vraiment plein de plus en plus, des petites pépites qui se lancent. Après, le seconde main, c'est génial aussi pour ça.
Donc là, tu vas dans Paris
Ouais, ou sur Vinted. Même,
ah oui, Vinted, ça marche bien, Vinted. Ouais.
Donc, voilà. Et puis là, après, il y a des salons comme par exemple le salon du Made in France qui a lieu. Et il y a de quoi vraiment trouver de chouettes choses.
Pendant que vous étiez en train de mettre en place votre projet, tu as été assez active sur les réseaux sociaux. Hein. Est-ce que les réseaux sociaux t'ont vraiment aidé, tu penses, à lancer Oumai ?
Ouais, clairement, je pense que ça nous a énormément, énormément aidé. Moi, j'ai toujours bien aimé ça, les réseaux sociaux, mais je n'étais pas forcément ultra active avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Côté où je me disais, en vrai, je suis pas très légitime de partager énormément de choses. Et du coup, j'ai vraiment commencé à partager quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que là, je me suis dit, là, c'est bon, j'ai vraiment des choses à dire, je peux partager là-dessus.
Et tu partageais sur ton perso ?
Ouais, je partage pas mal sur mon compte perso, et après aussi, sur Oumai, on a essayé d'être pas mal actifs. C'est vrai que quand on fait du crowdfunding, les gens ont vraiment besoin de comprendre qui est derrière le projet. C'est pas seulement, enfin, on n'achète pas juste un produit quand on soutient une campagne de crowdfunding. On soutient un projet, on soutient une équipe. Et du coup, je pense que c'est important pour ça de communiquer plus directement en fait avec les clients et les personnes. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est fantastique pour ça, parce que ça nous permet d'être en direct avec eux.
Êtes-vous déjà contacté par des magasins qui voudraient vous distribuer?
Oui, on a été beaucoup contactés à la suite. Du coup, vu que la vidéo a été vue de nombreuses fois, quand même, on a reçu pas mal de demandes. Après, nous, on est un peu en train de réfléchir à tout ça. Voilà, après, on distribuera principalement nous sur notre site internet. Mais on aimerait bien avoir quelques boutiques un peu phares dans les villes de France pour qu'on puisse quand même trouver le produit facilement près de chez soi.
Oui, c'est toujours sympa d'avoir quelques boutiques. Alors écoute, on va passer à ta beauté à toi. Quel produit de beauté green tu utilises en fait au quotidien?
Alors moi déjà, j'ai une routine et tout, hyper minimaliste.
Oui, mais t'as une petite routine quand même.
Oui, oui. Non, mais il y a des produits, j'ai mes petits produits chouchous fétiches. Très logiquement, mon petit shampoing. Clairement, là, depuis 8 mois maintenant, presque.
Donc, tu l'utilises tout le temps.
Complètement adopté, par ma coloc aussi, qui me fait trop rire, parce que du coup, à chaque fois qu'elle doit partir ailleurs ou quoi et utiliser un autre shampoing, elle me dit mes cheveux comprennent rien à ce qui leur arrive, ils aiment que ton shampoing, donc c'est trop chou. Et après, en crème visage, j'aime beaucoup la crème de chez Seasonly, qui est aussi hyper clean, dans un packaging en verre, donc ça, c'est top. J'aime aussi beaucoup le déodorant de la marque Endro, qui est une petite marque bretonne qui s'est lancée en crowdfunding aussi il n'y a pas très longtemps, à peu près en même temps que nous.
Endro, tu l'écris comment?
E-N-D-R-O.
D'accord.
Et ils ont 4 petits déos naturels. J'utilise aussi le baume des petits prodiges pour me démaquiller. Et après, je teste pas mal de trucs pour les prochains produits Oumai aussi. Du coup, ça prend pas mal de place dans ma salle de bain. C'est vrai que je me maquille vraiment pas beaucoup. Oui, je mets de la crème, donc crème visage. J'utilise souvent quand même des toniques au floral. Là, je crois qu'en ce moment, j'ai fleur d'oranger, quelque chose comme ça. J'aime bien, ça fait un petit côté frais. Je mets très très peu de maquillage. Je mets juste du mascara Avril, qui est le seul pour l'instant un peu mascara naturel que j'ai réussi à trouver qui fonctionne, qui ne me fait pas des yeux de panda à la fin de la journée. Donc j'avoue que je suis très fidèle, je l'ai depuis hyper longtemps. Mais,
t'as pas un petit rouge à lèvres?
Les rouges à lèvres, j'en mets, mais j'ai pas de marque ultra fétiche. J'ai un peu, je prends un peu ce qui traîne là, et après le soir, démaquillant à l'huile, et après j'aime bien aussi mettre des petits mélanges d'huile que je me fais, type huile de figue de Barbarie, tout ça pour la nuit. Ouais, voilà.
Et est-ce qu'il y a un conseil beauté qu'on t'ait donné qui t'a servi?
Alors, ça va peut-être paraître un peu nié, mais
non.
Je pense que c'est vraiment juste de s'accepter comme on est, en fait, et d'être capable de sortir sans maquillage et de se trouver belle au naturel, quoi.
C'est beau. Alors, est-ce que tu as une marque de beauté préférée?
Du coup, j'en ai pas vraiment. C'est justement un peu pour ça que j'ai créé Oumai, parce qu'au final, j'arrive à créer une marque qui me ressemble à 100% et dans laquelle je me retrouve, alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment de marque de cosmétiques naturelle dans laquelle je me retrouvais, qui donne à la fois vraiment envie et qui soit 100% moi, pas trop féminin, pas trop masculin. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde, avec une forte inspiration nature.
Et j'imagine que tu achètes quand même des produits de temps en temps pour les tester. Là, est-ce qu'il y a un dernier produit que tu as acheté récemment?
Je crois que les derniers produits que j'ai achetés, j'avais acheté des dentifrices. J'avais acheté le dentifrice Le Bon et le dentifrice Docteur, non, comment ça s'appelle? Marcus.
Marcus? Donc tu as testé des dentifrices un peu naturels.
Ouais.
Et alors?
C'était plutôt pas mal. Hein. Ouais. C'était plutôt pas mal.
J'imagine que t'as quand même eu dans ta jeunesse un moment de honte capillaire ou beauté. c'était quoi?
Ouais, alors
c'est
en fait...
C'est pas si vieux, je pense.
Non, c'est pas si vieux. Ça date de quoi? Je sais pas, ça doit dater de 2013, quelque chose comme ça. J'avais toujours rêvé d'avoir les cheveux bouclés. Parce que moi, j'ai les cheveux assez raides.
Oui, alors on te décrit rapidement. Cheveux raides, coupe...
très courte depuis quelques jours.
Mais au carré, quoi.
Ouais. Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu les cheveux longs, très longs, lisses. Et en fait, j'étais super triste d'avoir les cheveux très, très lisses, qui faisaient rien du tout. Et moi, je rêvais d'avoir des cheveux de surfeuse, un peu wavy, tout ça, tout ça. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, ok, allez, je me lance, je vais faire une permanente. Donc, en soi, pas une si mauvaise idée à la base, mais bon, c'est quand même
tu
un peu bizarre.
Chez toi ?
Non, je suis allée quand même dans un salon.
D'accord.
Et donc, j'ai demandé une permanente, et donc, j'ai eu ma permanente, etc., qui était, ma foi, plutôt réussie. Mais en fait, le fun fact qui va avec ça, c'est qu'à l'époque, j'avais une frange. Et du coup, je me suis retrouvée avec une permanente toute bouclée et une frange super lisse. Mais genre, là, j'avais pas une petite frange, c'était vraiment la grosse frange de baby doll un peu. Et du coup, ça faisait, c'était hyper bizarre parce que du coup, j'avais les cheveux super raides et en même temps super bouclés.
Oui, ça devait faire très bizarre.
Du coup, bon, après, j'ai abandonné la frange, je suis passée en mode mèche. Deux ans, ça a duré. Mais après, j'aimais trop parce que du coup, à la fin, j'avais les cheveux vraiment... wavy, ouais, c'était cool. Mais du coup, frange permanente, je conseille pas. Et en plus à l'époque ça m'avait pas tant choqué parce que c'est juste parce qu'on m'a dit non mais par contre la Célia c'est vraiment bizarre, il faut que tu fasses quelque chose.
Ouais, et puis tu l'as quand même gardé 2 ans, c'est que t'aimais hein.
Non mais après du coup enfin oui, j'avais plus la frange donc après au bout d'un moment ça pousse en fait et du coup t'as le poids des boucles qui se détend,
ouais,
etc.
Oui, ça fait plus joli au bout d'un moment.
C'était bien. En vrai franchement je dis pas que je le referais peut-être jamais hein.
Écoute, on va passer aux questions un peu plus rapides.
Ok.
Alors, comment tu vis la vie d'entrepreneur aujourd'hui ?
J'adore.
T'adores. C'est génial, tu le recommandes ?
Je le recommande si on sent qu'on est fait pour ça aussi. Bon, après, honnêtement, je pensais jamais de ma vie me lancer tout de suite comme ça. Je pensais pas que... Enfin, je m'étais jamais dit, c'est fait pour moi, je veux absolument monter ma boîte. J'ai fait une école de commerce, mais je faisais pas du tout partie de ces personnes-là qui ont fait la majeure entrepreneuriat et qui disaient, moi, de toute façon, je sors de l'école, je monte ma boîte. Non, pas du tout. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que ça me correspond à 3000%. Moi qui adore faire des trucs hyper différents tout le temps, qui aime bien être à 3000 à l'heure en permanence, je m'épanouis.
Mais qu'est-ce qu'ils disent, justement, tes anciens copains de classe ?
Franchement, ça les a vachement surpris. Hein.
Ils ne voyaient pas faire
non,
ça ?
Non, ils savaient que j'avais un côté très engagé et que, clairement, je n'allais pas me retrouver dans un grand groupe à faire un truc bien carré. Mais je pense qu'ils ne s'imaginaient pas du tout que j'allais monter ma boîte. Et du coup, en vrai, ils sont assez impressionnés.
Ouais, j'imagine.
c'est trop mignon.
Qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu as des journées quand même très, ouais, très speed, j'imagine, qui sont justement toujours différentes. Qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de te détendre ?
Alors moi, il y a deux choses que j'aime bien faire. La première, c'est je fais beaucoup de vélo. Enfin, je me déplace à Paris que en vélo. Donc j'ai mon petit vélo à moi et j'adore aller me balader à vélo. Enfin, ça m'oxygène le cerveau. Donc ça c'est vraiment top. Et après, je fais beaucoup de patinage artistique aussi.
Ah oui.
Et du coup, ça c'est pareil, c'est mon défouloir. Ça me permet de me vider la tête. C'est quand je suis sur la glace, je pense à rien d'autre parce qu'il faut être tellement déjà concentré sur trop de trucs que.
C'était une passion de jeunesse.
J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et ouais, c'est une passion qui m'a jamais quittée.
Et t'en fais à Paris ?
Et j'en fais à Paris, oui.
Sympa. Est-ce qu'il y a une citation qui te booste ?
Il y a une citation que j'aime beaucoup, en fait, ça s'appelle la citation du moustique. Enfin, ça doit être la citation du moustique, mais bon, enfin voilà, c'est la métaphore du moustique. Et en fait, c'est si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec nuit avec un moustique, quoi.
Et vous verrez.
Et je trouve ça assez vrai parce qu'on a toujours l'impression que...
On n'est pas assez bien, pas assez fort, pas assez... Ouais.
Et en fait, tous nos petits gestes comptent, quoi.
À quel moment t'es la plus heureuse ?
Alors moi, je suis très partisane des petits bonheurs simples du quotidien. Je suis vraiment comme ça, quand je fais un peu le bilan de mes journées, au final je me dis ça c'était trop cool, et ça peut être juste d'avoir traversé Paris à vélo, comme je disais, du coup ça fait vraiment plusieurs mois que je n'ai pas pris le métro quasiment,
ouais.
Et ça c'est un grand bonheur en vrai, et du coup j'adore parce que Paris en vrai, je trouve que quand on prend beaucoup le métro, on a tendance à oublier que c'est une ville géniale et qu'on a quand même la chance de vivre dans cette ville-là. Moi, j'essaye tout le temps de me dire, bah, en vrai, tu vis à Paris, c'est comme si tu vivais à New York ou à Sydney. Enfin, c'est un peu pareil. Enfin, les gens qui vivent à New York... Ouais, voilà, c'est ça. Quand je passe sur le pont Alexandre III avec la vue sur le Tour Eiffel ou que je me fais les quais... Enfin, en vrai, Paris est vraiment une attraction touristique tout le temps. Enfin, moi, je passe tout le temps devant la Madeleine et tout. Et de jour, de nuit, le matin, etc., les lumières sont jamais les mêmes. Et c'est mon petit bonheur. J'ai la musique dans les oreilles et j'essaye d'apprécier le moment.
Quand même.
J'ai un casque, ouais. Depuis pas très longtemps, mais j'ai un casque.
Parce que moi, je mets mon casque. Hein.
Oui.
C'est qu'il faut quand même faire attention.
Oui, il faut faire attention.
Mais c'est génial, Paris. Moi, j'ai l'impression, à vélo, j'ai l'impression de partir en vacances et de rentrer. En fait, quand je rentre chez moi après un moment de vélo, j'habite loin quand même, 45 minutes, presque une heure parfois de vélo, mais c'est un grand waouh parce qu'effectivement, je regarde les lumières, je regarde la Tour Eiffel. Moi, je passe devant la Tour Eiffel.
C'est trop bien.
Et à chaque fois, je me dis comme toi, c'est génial Paris, il faut juste pas être dans le métro.
Hein. C'est ça. Et j'aime trop regarder les cafés, les gens dans la rue, les petites boutiques.
Tu regardes les autres gens à vélo aussi, les gens te regardent. Là, tous les gens à vélo, on se regarde.
Et il y a de l'interaction en vrai entre les gens à vélo, c'est ça qui est dingue, beaucoup plus que dans les gens dans le métro, alors que la proximité est moins forte.
Regarde nos casques. Je
tape souvent la discute aux gens qui sont arrêtés au feu rouge avec moi au vélo. Hein.
Les gens me demandent où est-ce que vous avez acheté votre casque, il est super. Et c'est souvent des gens à vélo ou en scooter aussi.
Non mais c'est trop bien.
Ouais. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ?
J'ai beaucoup de mal avec l'hypocrisie. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de tellement honnête, tellement 100% tout le temps sincère, un peu trop parfois peut-être même, enfin même si je suis pas sûre qu'on puisse l'être trop, mais que du coup quand les gens sont faux, j'ai beaucoup de mal.
Et si tu pouvais changer... quelque chose dans le monde avec une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais, la chose que tu changerais? C'est dur, hein?
Super dur cette question.
Mais je suis sûre que tu vas trouver.
Tu vois, j'aurais envie de te dire de supprimer tout le plastique qui existe déjà sur la Terre, mais en fait ça réglerait pas le problème. En fait du coup j'aurais presque envie de dire d'installer assez d'infrastructures qui permettent aujourd'hui de recycler assez tous nos déchets, enfin même pas que le plastique mais tous nos déchets de manière générale, parce que ça je pense que c'est vraiment l'énorme problème aujourd'hui. En fait on n'arrive pas à gérer tous les déchets qu'on a, mais en même temps j'ai envie de dire ce serait pas non plus la solution, parce que la solution c'est plus que les gens consomment moins de manière générale, parce que si aujourd'hui on arrivait à traiter complètement tous les déchets qu'on produit, ben en fait la solution serait juste repoussée dans le temps, parce que du coup les gens continueraient de consommer autant que ce qu'ils consomment, et du coup on se retrouverait avec le même problème mais dans 30 ans quoi. Donc
En fait du coup toi ce que t'aimerais c'est que les gens consomment moins de produits.
C'est changer les mentalités, mais...
Ça serait ça, s'il pouvait changer quelque chose d'un coup de baguette magique, ça serait changer
les mentalités. Changer les mentalités pour qu'on arrive tous à se contenter de moins, quoi.
De moins, au quotidien, et de moins de déchets.
Et d'avoir tous mille fois moins de choses chez nous, et de se dire que c'est très bien comme ça, en fait.
Bah voilà, franchement, ça c'est canon. Dernière question. Je pense que t'en as un, ton plus grand rêve.
Mon plus grand rêve, je dirais, ce serait de... Quand j'arrive à la fin de ma vie, entre guillemets, ce serait de me retourner et de pouvoir me dire que j'ai servi à quelque chose et que j'ai eu un impact et que j'ai fait quelque chose de bien, entre guillemets. Et ça me rendrait complètement heureuse. Donc, au final, j'aurais réussi les deux goals de ma vie, entre guillemets, c'est d'avoir passé une vie en étant heureuse et d'avoir eu l'impression d'avoir changé quelque chose, quoi. D'avoir participé, d'avoir laissé une trace positive.
Merci beaucoup Célia.
Merci à toi.
Vraiment, j'ai été très contente de ce podcast parce que j'ai beaucoup de points en commun avec toi, je pense, sur tout ce que tu as dit. Donc, je crois que c'est la première fois où j'ai autant de points communs. Et ce que tu dis, je le ressens vraiment. Et voilà, je voulais te dire, est-ce que tu veux faire un petit mot aux auditeurs pour la fin de ce podcast ?
Déjà, merci à tous d'avoir écouté mon blabla jusqu'à la fin. c'est trop chouette. Et puis, un petit mot juste pour dire que les bonheurs simples, c'est ceux qui nous enrichissent le plus, je pense. Donc, faut voir la vie avec plus de simplicité et toujours du bon côté. Et c'est comme ça qu'on est plus heureux et qu'on arrivera à vivre dans un monde meilleur tous ensemble, je pense.
C'était le mot de la fin. Réfléchissez à tout ça.
Bonne soirée.
Sur ce, merci beaucoup et j'espère à bientôt et plein de belles choses pour Oumaï et qu'on verra bientôt un peu partout.
Merci beaucoup.
Merci, salut.
Ah oui, j'oubliais, le site Oumaï sort ce lundi, alors allez y jeter un petit coup d'œil.